RCF.
Bonjour, vous êtes à l'écoute de RCF en Berry pour votre émission du lundi à 11h30. Eh bien tout d'abord, chers auditeurs de RCF, une superbe année 2015 qui vous apporte joie et bonheur et tout ce que vous pouvez souhaiter. C'est tout ce que nous souhaitons ici à l'antenne de RCF. Le Berry se raconte avec Agora Défense pour témoigner de la vie militaire dans le Cher et en Berry au travers de notre histoire de France. Aujourd'hui, nous poursuivons l'émission du mois de décembre concernant la Révolution française, en particulier l'année 1789. Nous accueillons une habituée, Françoise Trottignon, que nous connaissons bien, ancienne présidente de la Société archéologique d'histoire du Berry, que je me permettrai une fois de plus de caractériser, même si elle se fâche et qu'elle me regarde avec un air très méchant, de femme humaniste. En effet, hélas, humaniste, je dis humaniste dans le sens que ce mot avait bien sûr à l'époque de Montaigne. Ma chère Françoise, tout d'abord, je vous souhaite une superbe année 2015.
Merci.
Françoise, nous avons, l'année dernière, abordé les événements de l'année 89 en Berry, en particulier la prise de la Bastille. Nous avons abordé la question de la Grande Peur. J'aimerais que nous revenions toujours sur cette année 1789, c'est, je pense, une des conséquences de la Grande Peur. C'est un autre fait qui me paraît, moi, essentiel dans la compréhension de ces événements qui vont se succéder jusqu'en 1799. C'est la nuit du 4 août 1789 et l'abolition des privilèges. Les Berruyers et Berruyères se réjouissent-ils de l'abolition de l'Ancien Régime ? Françoise.
Oui, alors pour bien comprendre la nuit du 4 août et l'abolition des privilèges, de la noblesse et du clergé, bien entendu, il faut remonter à un fort courant anti-féodalité qui dure depuis plus d'un siècle et qui s'est propagé à travers les loges maçonniques, en particulier, qui était très à la mode en cette fin du XVIIIe siècle et s'est concrétisé dans la rédaction des cahiers de doléances qui prônent l'égalité pour tous. La Grande Peur et sa conséquence, la création de milices municipales, ont réussi à fédérer, comme on l'a vu, les mécontentements. Égalité pour tous devant l'impôt, abolition des corvées, c'est-à-dire des journées de travail gratuites au profit du seigneur, et autres droits féodaux sont ardemment réclamés. Du côté du pouvoir royal, on ne bouge pas trop, mais on va de renoncement en renoncement, faute d'un certain courage. L'Assemblée vote ainsi l'abolition des droits féodaux, qui sont pour beaucoup tombés en désuétude, mais qui restent quand même présents. Ce sera la suppression des servitudes personnelles, la taille, les corvées, la main morte, les banalités, les péages, les droits de marché, puisqu'il fallait payer aussi pour vendre sur les marchés, les droits exclusifs de chasse, de pêche, de colombier, de triage, qui permet de revendiquer le tiers des bois communaux pour le seigneur, bref, de tout ce qui apparaît aux yeux de la bourgeoisie elle-même comme scandaleux. Les dîmes, la vénalité des offices, les pensions sans titre sont remis en question. Il y a quand même des limites à cette abolition, puisque la proposition de La Rochefoucauld d'Anville de supprimer l'esclavage n'est pas retenue. Les villes perdent également leurs privilèges, comme l'exemption de la taille dont bénéficiait Bourges et Issoudun aussi qui va l'abandonner. L'enthousiasme populaire soulevé par cette nuit du 4 août est immense. L'autorité royale, déjà mise à mal par la création des comités municipaux, tombe d'elle-même sans violence, comme ça. Le roi est toujours admiré, chéri, mais désormais sans pouvoir. L'intendant de la généralité de Bourges, Dufour de Villeneuve, ne décide plus de rien car il n'est plus consulté. Il décide, avec un passeport validé par les comités locaux, de partir en Auvergne chez lui. Avec lui, c'est l'autorité royale qui s'en va, tout simplement. Procureur fiscal, lieutenant de police, bailli, tous se démettent prudemment. Il n'y a donc plus d'administration royale et pas encore d'administration nouvelle. Une telle vacance des pouvoirs est remarquable. Elle ne s'accompagne pas d'ailleurs de grands désordres dans un premier temps. En janvier 90, la situation va changer à cause des émeutes de la faim.
Parce que justement, je crois qu'un certain nombre de ces privilèges étaient rachetables. Tous les privilèges n'étaient pas forcément bon, droit de chasse, droit de pêche, mais par conséquent, je sais que certains privilèges devaient être rachetés par les populations.
D'ailleurs, il va y avoir des problèmes parce que cette abolition des privilèges, elle prend effet tout de suite, mais des choses qui sont en cours traînent. Et évidemment, dès cette abolition, cette statue du 4 août, plus personne n'a l'intention de payer quoi que ce soit.
Exactement. Justement,
quand même être clair.
C'est justement, 4 août 1789, c'est la fin de ce qu'on appelle l'Ancien Régime.
C'est la fin.
C'est la fin de l'Ancien Régime. Un nouveau régime, entre guillemets, doit se mettre en place. Alors justement, Françoise, ces événements qui bouleversent le royaume de France sont-ils contrôlés plus exactement Existe-t-il une police pour veiller à la sécurité de nos citoyens, en particulier, je pense, aux Berrichons et aux Berruyers?
Alors, on l'a vu, les détenteurs de l'autorité royale comprennent bien que leur pouvoir leur a échappé au profit des comités municipaux, des milices bourgeoises, puis des gardes nationales, et que la plus élémentaire prudence veut qu'ils se fassent oublier. Dans un premier temps, la situation est calme. Il y a quelques refus de payer l'impôt, mais ça, c'est la routine. Mais début 92, il y aura de graves émeutes de la faim et qui vont montrer combien il est difficile de ramener l'ordre sans troupes réglées, c'est-à-dire officielles. On fait ponctuellement appel à celle de Bourges, au Royal Piémont, mais sa présence rassure, mais en même temps, elle irrite puisque c'est le rappel d'une autorité royale. Donc le mieux, c'est de se mettre en retrait. Dans les troupes de quartier, il y a quand même apparaissent beaucoup de refus d'obéissance aux ordres. Le commandant se considère désormais, dit-il lui-même, comme la cinquième roue. Dans la population civile, les refus de servir se multiplient. Le désordre s'installe rapidement et la situation devient incontrôlable. À Charot, le procureur Prévôt de Touzel désire démissionner. Ses officiers ne sont pas du tout d'accord. Sa maison est investie, on le cherche, on le trouve, on l'arrête et on crie « qu'on le décolle », qui veut dire qu'on lui coupe le cou. Rien de plus. Il finit par demander la protection à l'Assemblée nationale. Évidemment, l'histoire ne dit pas si on l'a décollé, ça m'étonnerait. Mais il y a une espèce de violence, d'exaspération qui s'exprime sans vraiment de raison. Collecter l'impôt devient difficile et risqué. L'impôt direct, il y a seulement les 2/5 qui sont rentrés dans les caisses. Quant à l'impôt direct, c'est même pas la peine d'y songer. La gabelle, les aides, les droits annexes qui devaient continuer à être perçus sont carrément éludés et abolis. Le faux sel. Oui. Parce qu'on était un pays de grande gabelle. C'est-à-dire que le sel sans droit est vendu publiquement sur les marchés, à Châteauroux, à Enrichement, par charrette entière, sans que nul ne s'en formalise, ou plutôt, comme disent certains responsables, eu égard au nombre du peuple. C'est-à-dire, disons-le, on a peur de faire respecter la loi.
C'est grave.
Dès juillet 89, la perception des aides est problématique, les inventaires de marchandises sont impossibles à faire, rue Porte Saint-Privé à Bourges. Oui. Les vins et bestiaux avaient rapporté 397 livres en 6 mois, en 88. En 89, sur 6 mois, 150 livres. L'octroi sur le vin baisse de moitié. Les bouchers sont accablés d'insultes et de menaces des employés de la régie qui voudraient les faire payer. La baisse des recettes s'accentue de mois en mois sans qu'on puisse y remédier. Les marchands refusent de payer les lettres seigneuriales, c'est-à-dire les redevances de places de marché. Oui. Et la moindre demande de paiement déclenche l'émeute. Voilà la situation.
Une situation quand même préoccupante, très préoccupante.
Très préoccupante. Oui. Le désordre est installé durablement.
Durablement. Alors, justement, une autre question. Un des derniers événements majeurs de l'année 1789, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le 26 août 1789, par l'Assemblée constituante. Je vous pose la question, existe-t-il à Bourges des clubs comme à Paris? Je pense en particulier au club des Jacobins.
Non, il n'existe pas encore de club à Bourges, même s'il y a une opposition. Mais ils vont exister en province qu'à l'automne 90 avec la Société des Amis de la Constitution de Bourges, autrement dit les Jacobins. C'est une opposition qui sera passionnément révolutionnaire et républicaine, qui va entraîner une grande haine envers le clergé assermenté et qui fédère pratiquement la majorité de la population.
D'accord.
C'est comme un seul homme. Ils deviennent d'un seul coup anticléricaux, on peine à comprendre, mais c'est comme ça, il y a une exaspération incroyable.
Est-ce qu'il y a une presse, tout au moins, est-ce qu'il y a des petits journaux qui paraissent comme à Paris
Je pense qu'il y a, surtout avec les éditeurs Jourlas, c'est Manseron à Bourges, des petites feuilles volantes qu'on distribue dans les rues. D'ailleurs, ces Manseron qui sont une grande famille. Des imprimeurs sauront surfer sur la vague révolutionnaire parce qu'après, ils deviendront le meilleur imprimeur du clergé. Donc, ça s'appelle « Les affaires sont les affaires ». Et Jourlas va... Brulas
oui.
va adhérer à la société populaire parce qu'il va sentir un peu le vent du boulet. Donc, il va être prudemment se mettre dans le courant révolutionnaire. Mais il n'y a pas encore vraiment de journaux et l'équivalent de l'ami du peuple ou des choses comme ça.
Oui, d'accord. Très bien. Alors... Une question très personnelle à l'historienne Françoise Trottignon. Est-ce que vous pensez que les Berrichons ou les Berruyers ont vraiment conscience de ces événements de cette année 1789? Est-ce que vous pensez que le clergé, par exemple, est-ce qu'il a conscience que c'est la fin d'une époque, la noblesse? Qu'en pensez-vous, Françoise?
Alors, la noblesse voit bien qu'elle a perdu ses privilèges, ça c'est clair. Mais ils sont pour le moment sur une position d'attente.
Oui.
Ils voient « wait and see », le Berrichon est assez prudent. Du côté de la bourgeoisie, c'est un peu la même chose. Côté paysan, étant donné, je parle des paysans, pas des laboureurs, pas des hommes libres, des paysans qui travaillent, qui subissaient les droits féodaux. Eux, ils sont absolument enchantés de cette abolition. Oui. Ils vont pouvoir, ça devient vraiment de l'euphorie. Côté clergé, il faut distinguer le haut clergé et le bas clergé. Le bas clergé, est, d'abord, les curés n'ont pas toujours choisi cette profession, si je puis dire. C'est quand même le sort des fils puînés de la noblesse, hein, oui, qu'on met dans la religion, qu'on occupe. Eux, ils sont assez pro-révolutionnaires.
Pro-révolutionnaires.
Et surtout qu'ils ont quand même à souffrir assez de leur hiérarchie, qui leur impose des choses. Ils vivent dans des conditions assez précaires d'un point de vue confort. D'ailleurs, on le verra lors des ventes de biens nationaux. Les curés s'achètent des fauteuils, des couettes, du vin, de Bordeaux. Enfin, ils ne renâclent pas devant un peu de confort.
Oui, tout à fait. Et vous n'avez pas parlé des commerçants, de la petite bourgeoisie. Est-ce que vous savez si à Bourges, la petite bourgeoisie, tous ces petits commerçants, artisans jouent un rôle ou laissent faire les...
Bah, ils n'ont pas beaucoup de choix. Ils sont obligés de laisser faire.
Ah, oui.
Quitte à... Bon, beaucoup se retirent dans leur campagne quand ils en ont une. Et puis sinon, ils essayent de... comment dire, on peut comparer ça pendant, à la guerre, à la Deuxième Guerre. On essaye... Je ne vais pas dire qu'on va faire du marché noir, mais il y a quand même des profiteurs, il faut le dire.
Oui, très bien. Hein,
qui vont accaparer certaines choses.
Merci Françoise pour toutes ces explications, pour... de la compréhension, disons, d'une très petite partie de ces événements de l'année 1789 dans notre Berry. Comme je le disais l'an dernier, prélude aussi, hein, peut-être, d'un nouvel ouvrage publié par Agora Défense. L'avenir nous le dira. Merci d'être fidèle à notre émission et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission sur l'histoire militaire de notre Berry. L'année 2015 sera chargée et encore, bonne année 2015.